Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Lors de la première diffusion de cet épisode, nous serons tout près de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Or, il y a toutes sortes d'amour. Celui qu'on porte à notre amoureux ou notre amoureuse, ou celui ou celle qu'on aimerait avoir, celui qu'on porte à nos enfants, à notre famille, à nos amis et à nos animaux de compagnie. Pour certains, leur animal de compagnie est toute leur vie. Considéré comme un ami, considéré comme un enfant, et pour d'autres, il leur a carrément sauvé la vie. C'est le cas des chiens d'assistance qui soutiennent les personnes vivant avec des enjeux de santé physique ou mentale. Si on connaît bien les chiens Mira, qui sont les compagnons de personnes ayant des déficiences motrices, on connaît moins la Fondation Leski, dont les chiens d'assistance soutiennent les personnes victimes d'agressions ou vivant avec un trouble de santé mentale ou dans le spectre de l'autisme. Et c'est le but des héros anonymes, mettre en lumière des organismes que l'on connaît moins. En deuxième partie de cet épisode, nous parlerons des dégâts effroyables que font les mines antipersonnelles dans les pays en guerre comme l'Ukraine et du travail que fait Humanité et Inclusion, un organisme international qui intervient dans des situations de pauvreté, d'exclusion, de conflits et de catastrophes. L'équipe canadienne d'Humanité et Inclusion est dirigée par Anne Delorme, qui viendra nous raconter comment ils éduquent les citoyens à reconnaître les mines antipersonnelles et viennent en aide aux victimes grâce à la réhabilitation et aux prothèses. On fait une courte pause et on reçoit Marie-Hélène Paquin, présidente et cofondatrice de la Fondation Leski. Notre première invitée s'appelle Marie-Hélène Paquin. Elle est présidente et cofondatrice de la Fondation Leski, physiothérapeute et maman quatre fois. Deux fois de deux enfants et deux fois de deux chiens. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
On sait comment les animaux sont importants dans notre vie, alors je me permets ce parallèle.
Oui, c'est très bien. Ça prend une place autant que nos enfants. Puis effectivement, je suis d'accord avec le 4. Je suis contente que vous l'ayez mentionné.
Jusqu'à quel point, peut-être au niveau de votre parcours qui va vous amener à cofonder la Fondation Leski, jusqu'à quel point les animaux ont été importants pour vous?
Ah, les animaux dans ma vie, ça a marqué beaucoup de choses. Premièrement, j'en ai toujours eu quand j'étais jeune, mais mon intérêt pour partir la Fondation date en 2003. En 2003, j'ai eu un an de ma vie où j'ai dû accompagner mon conjoint aux États-Unis, en Californie, en fait. Puis là-bas, j'avais un an que j'avais pas le droit de travailler comme physiothérapeute. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai dit, pourquoi pas aller dans un refuge pour animaux? J'étais à San Luis Obispo. J'étais allée au refuge du département du shérif. Puis sur place, il y avait le refuge pour animaux. Il y avait la prison pour animaux parce que c'était vraiment les animaux abandonnés qui étaient là.
La prison pour animaux?
Je vous jure, parce que dans le fond, là, les quand ils faisaient des... par exemple, là-bas, il y a beaucoup de pitbulls qui étaient impliqués dans un combat de pitbulls. C'est la police qui allait les chercher. Ils se retrouvaient dans le refuge, les gens qui les abandonnaient. Puis c'était vraiment le département du shérif, le département de la police qui gérait ce refuge-là. Fait que j'ai toujours appelé ça un peu la prison parce que c'était comme une prison pour eux, mais il y avait un travail de bénévole extraordinaire dans cette prison-là. Puis tous les jours, puis moi, ça m'a fait du bien. J'étais éloignée de ma famille, éloignée de tout le monde. Tous les jours, j'allais flatter des chiens, j'allais les promener. J'aidais à ce qu'ils soient plus facilement adoptés. Puis grâce à cette place-là, j'ai vu le bienfait sur moi. Ça a pris une grande place dans ma vie. Mm. Puis à cette époque-là, j'avais pas mon chien encore à la maison parce que j'habitais en appartement. Puis j'ai ramené un chien de Californie, je vous jure.
Ah, oui.
Il est revenu avec moi, le chien du refuge que j'avais entraîné. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que pendant ce voyage-là, il y avait aussi une autre prison pour juvéniles qui était sur le site. Mm. Puis on amenait les chiens du refuge auprès de ces jeunes-là, qui sont souvent des victimes eux-mêmes. C'est des, ouais, des jeunes, c'est terrible leur vécu. Fait que moi, j'ai vu les bienfaits sur ces jeunes-là. Fait que la place que les chiens ont pris dans ma vie à ce moment-là était exponentielle versus ce que j'avais quand j'étais jeune. J'ai dit, mon Dieu, c'est incroyable sur ces jeunes-là, c'est incroyable sur moi. Puis même, moi, comme vous l'avez mentionné en introduction, je suis physiothérapeute, je travaille avec des gens qui ont la douleur. Mon chien que j'ai ramené de Californie, je vous jure qu'il est venu travailler avec mes patients par la suite. Fait que ça a pris de la place même dans mon travail parce que j'ai vu l'impact sur eux.
Oui. Ouais. Comment s'appelle ce chien?
Ben, en fait, elle est décédée à ce jour, parce que ça fait quand même 2003. L'espérance d'un chien, c'est vrai, 12 ans, j'ai eu à 7 ans.
Oui.
C'est Lady qui a été mon premier chien que j'ai ramené, qui était un beau berger australien croisé. Elle m'a marquée dans ma vie. Écoute, j'ai toujours lancé une balle. Ça fait mal à un chien, ça fait bien moins mal que de lever notre épaule pour faire un exercice de physio. C'est incroyable la place que les chiens ont dans ma vie. C'est un vide quand j'ai pas de chien dans ma vie.
Oui. Et là, ça a grandi. En fait, c'est que pendant que vous viviez déjà un vide professionnel là, de pas pouvoir exercer votre métier, d'être aussi dépaysé ailleurs en Californie, c'est pendant ce vide-là, finalement, que ce projet est né. Donc, quand il n'y a pas d'animaux, il y a un vide et de ce vide-là, vous avez fait quelque chose de beau.
Oui, ben en fait, de là est parti le rêve de la Fondation Leski. Parce que je m'étais dit, je peux pas croire qu'on peut pas faire plus pour aider les chiens dans notre quotidien. Je peux pas croire qu'on peut pas aller chercher plus. Fait que j'ai parti ce rêve-là, puis j'ai ramené mon chien, je l'ai amené au travail. Puis là, j'ai vu vraiment l'impact du chien dans le contexte de travail avec les gens. Puis là, la vie m'a fait que je suis tombée enceinte. On était rendu là dans notre vie de couple, puis j'ai eu un enfant, puis mon premier fils, moi, c'est un trouble du spectre de l'autisme. Il va très, très bien maintenant, il a 18 ans. Mais à l'époque, la seule chose qu'il aimait, c'est tout ce qui était avec les chiens. Que j'ai fait, oh mon Dieu, il faut que je fasse de quoi avec
ça
les chiens.
Ça fait 1 et 1 plus 2, hein?
Exact, c'est en plein ça. Mais là, on est, tu sais, jeune maman, enfant, on était à l'extérieur, début de carrière. Écoute, c'était un... Puis là, je m'étais dit, ce rêve-là, là, il était dans le fond de mon cerveau qu'il faut qu'on fasse de quoi avec les chiens. Autant que je l'avais vu, puis là, ça a fait que nous, on a déménagé, on a changé de ville. Puis là, j'étais dans un nouvel emploi. Puis, je parle à une de mes collègues dans un souper de Noël en 2018, puis elle dit, je rêve de partir à une fondation. C'est Marie-Ève Girard qui a cofondé. Elle a un trouble anxieux généralisé. Puis, elle a réussi à l'étudier aux États-Unis grâce à un chien qui l'a accompagnée. Puis, elle est revenue au Québec, elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit, ça n'a pas de sens, il n'y a rien ici. Il manque de ressources, il y a beaucoup de gens qui en bénéficieraient pour sortir, puis on n'est pas capable. Elle dit, mon rêve, c'est de partir à une fondation. On est assis dans le souper de Noël, je fais comme, sérieux? C'est le rêve que j'ai depuis 2003.
J'en ai le poil qui me dresse sur les bras. C'était vraiment un match de cofondatrice qui s'est joué un soir de Noël.
Oui, exact. C'est un miracle de Noël. Ouais. Je vous jure, on s'est assis les deux, puis durant le party de Noël, on a parlé que les deux ensemble de notre rêve commun. Puis on a dit, bien parfait, en janvier, on se réunit. On bâtit un OBNL, on prend un conseil d'administration, on se met une équipe qui a un rêve, qui vont partager le rêve avec nous. On a travaillé des mois à penser comment le faire, puis on a dit la Fondation Leski, c'est ce qu'on va partir.
Wow. Puis à ce moment-là, vous étiez toutes les deux dans quel type d'emploi?
Bien, moi, j'étais encore physiothérapeute. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, elle était adjointe pour ma clinique, en fait, où je travaillais, adjointe administrative. Donc, elle, c'était sa job étudiante un peu, parce qu'elle, Marie-Ève, elle a un bac en études internationales puis une maîtrise en gestion de la sécurité informatique.
Donc, vous avez mixé tous vos talents ensemble.
Oui, exact. Puis on s'est entouré des bonnes personnes qui partageaient notre rêve aussi pour fonder la fondation. On est un conseil d'administration de 9 personnes.
Et concrètement, qu'est-ce que fait la Fondation Leski?
Oui, en fait, là, nous, on s'est dit comment on peut aider un maximum de personnes avec un chien d'assistance, parce qu'on est conscient que les chiens d'assistance, pas tout le monde qui peut en avoir. Comment qu'on peut aider un maximum de personnes? Donc là, on a dit, on va offrir un service d'accompagnement ponctuel d'un chien d'assistance jumelé à un intervenant pour des rendez-vous. Comme par exemple, la personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, elle a un rendez-vous chez le dentiste, ultra stressant, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir des chiens à temps plein. Il nous appelle, on y va avec un chien plus un intervenant pour la durée du rendez-vous. C'est incroyable. On a vu des dentistes pleurer qui ont des gars de faire des nettoyages à des personnes autistes qui n'avaient jamais été capables avant. Fait que c'est un service de chien d'assistance jumelé avec un intervenant parce qu'on est convaincu que le combo des deux est bénéfique pour aider les personnes à pallier à leur handicap, à sortir, puis aller dans des rendez-vous, dans des procédures judiciaires. Puis les gens nous appellent, puis c'est pas... Ils nous appellent, puis ils nous disent, rendez-vous telle heure, telle date, est-ce que c'est possible d'avoir un chien, un intervenant? On valide la demande, puis on y va. Puis on offre ce service-là gratuitement pour les bénéficiaires.
Donc, c'est vraiment ponctuel. Ce n'est pas, contrairement, par exemple, au chien Mira qu'on connaît davantage. J'espère que je ne dis pas quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais il me semble que les chiens Mira restent avec la personne à temps plein.
Exact. Nous, c'est particulier parce que c'est des services ponctuels d'accompagnement. Puis, ce qui est aussi particulier de notre fondation, c'est que nous, nos chiens ne travaillent pas à temps plein. Les chiens Mira, ils travaillent à temps plein. Ils sont toujours avec le même bénéficiaire ou le même intervenant pour toute la journée, puis ils travaillent à tous les jours. Nous, on a trouvé on a vu que certains chiens ont un burn-out canin. C'est épuisant, c'est vrai. Les chiens, quand ils sont à temps plein, ils absorbent notre émotion. C'est des chiens qui sont très sensibles à tout ce qu'on vit. Puis on le réalise, nos chiens, quand ils font une grosse journée, le lendemain, ils sont fatigués. Parce qu'ils absorbent et ils détectent l'émotion des gens.
Ils sont en alerte tout le temps. Ils sont toujours en alerte.
Oui, ils sont toujours en alerte. Comme je me dis, travailler 24 sur 24, le jour sur 7, c'est exigeant. Il y a certains tempéraments de chiens exceptionnels qui sont capables de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire aux chiens, mais ce qu'on a réalisé, c'est que nous, nos chiens, ils ont une vie de chien. Ils sont dans la même famille d'accueil toute leur vie. Ils travaillent, puis ils vont travailler 3 jours/semaine, pas tous les jours, puis un certain nombre avec des pauses obligatoires après 2-3 heures de travail.
Donc, ils sont presque syndiqués, ces chiens-là.
Oui. Oui, presque. Il y a le syndicat de nos partenaires canins. On les appelle nos partenaires. C'est nos collègues, nos partenaires. Donc, c'est nos chiens. Puis en plus, ils ne sont pas déstabilisés. Le jour, ils vont travailler avec l'intervenant. Mais on a 4 chiens d'assistance, puis un qui est plus zoothérapie, qui travaille pour la fondation. Puis ils ont toute leur vie dans la même famille. Fait que notre intervenante va chercher le chien dans sa famille. Ils sont tellement contents de l'avoir. Ils vont travailler, ils mettent le harnais ou le foulard selon la tâche. Ils vont faire leur activité, puis le soir, ils retournent chez eux dans leur vie de chien.
Et est-ce que le placement dans les familles d'accueil, c'est déjà décidé ou quelqu'un peut avoir un chien et vous proposer ses services pour qu'il soit entraîné?
Bien, en fait, on a les deux choses actuellement. La seule chose, c'est que actuellement, on a 4 chiens qui nous appartiennent à nous, puis c'est nous qui déterminons les familles d'accueil. C'est nous qui payons pour tout pour les chiens. On est propriétaire des chiens, mais ils habitent dans les familles d'accueil. On a commencé tranquillement à avoir un projet avec des chiens qui appartiennent à des tiers personnes, mais eux ne seront pas chiens d'assistance. C'est des chiens de zoothérapie. La différence entre le chien d'assistance puis le chien de zoothérapie, le chien d'assistance peut aller dans tous les endroits publics. Il y a une certification, il y a un entraînement spécifique. Tandis que le chien de zoothérapie va faire des activités spécifiques avec un zoothérapeute. Donc, par exemple, on va à Charlemagne avec les gens qui ont en oncologie, qui ont le cancer. On va dans les salles d'attente pour diminuer l'anxiété des gens qui ont le cancer. On va aussi à la maison Victor Gadebois avec les gens en fin de vie pour diminuer leur anxiété pour eux et leur famille. Ça, c'est avec une zoothérapeute. Donc, c'est que les gens, des fois, ils veulent qu'on entraîne leur chien pour avoir un chien d'assistance pour pouvoir l'amener partout, mais les chiens qui ne nous appartiennent pas, non, on ne permet pas ça. Fait que c'est vraiment, ils vont aller travailler dans des moments spécifiques parce que les chiens d'assistance, eux, c'est un entraînement supplémentaire. Ils partent un peu plus. Donc, nos chiens qui appartiennent pas à nous, ils ne sont pas chiens d'assistance, mais de zoothérapie. Mais oui, on a commencé à faire ça, mais ça sera pas... Parce que des fois, le problème, c'est que les gens voudraient, tout le monde voudrait pouvoir amener son chien partout. Je les comprends, mais c'est pas tous les chiens, tous les tempéraments qui peuvent. Puis nous, on ne veut pas prendre cette responsabilité pour les chiens qui nous appartiennent pas.
Et quelle différence on fait entre l'un de vos intervenants et un zoothérapeute?
En fait, c'est très similaire. Tous nos intervenants ont une formation parce que, dans le fond, les zoothérapeutes, ils ont une formation pour travailler en plus avec le chien, travailler avec l'humain. Dans le fond, ils ont le combo des deux, puis il y a plusieurs attestations. Il y a un cours collégial de zoothérapie qui existe. Il y a plusieurs formations en zoothérapie qui existent actuellement. Donc, nos intervenants ont tous une base en zoothérapie quand même.
Marie-Hélène, on fait une courte pause et on poursuit notre entretien tout de suite après.
Super.
Alors, donc, c'est ça, on parlait un peu des différents rôles des chiens d'assistance. Vous me disiez qu'il y a déjà eu un chien qui a aussi accompagné une victime en cours.
En fait, on a accompagné plus d'une victime. On en a accompagné 135 dans la dernière année.
135?
Oui. Oh, wow. Victimes, c'est surtout des victimes d'abus sexuels qu'on accompagne. Bon, on accompagne dans différentes procédures judiciaires.
D'accord.
On a eu un financement du ministère de la Justice pour partir ce projet-là. On n'a plus de financement maintenant, mais le projet continue encore. À toutes les semaines, on accompagne des victimes. Je peux vous donner un exemple. Une jeune, 4 ans, qui a été abusée par son beau-père.
Ah, oh, c'est terrible.
Écoute, c'est terrible. Puis le chien a fait toute la différence parce qu'on n'est pas là juste le temps du témoignage. On est là dans l'attente. La jeune, elle s'est mise à lancer la balle au chien dehors en attendant, fait qu'elle pensait pas, je vais stresser pour ci, je vais stresser pour ça. Puis cette jeune-là était adorable. Pendant qu'elle témoignait, elle dit à un moment donné, le juge, il avait été très gentil avec elle, il avait donné son prénom, il dit, appelle-moi, Jacques, puis je vais t'inciter. Si tu as besoin d'une pause, tu me fais signe. Fait que là, elle dit, Monsieur Jacques? Il dit oui. Il dit, je peux-tu prendre une pause pour aller flatter le chien pour continuer ensuite mon témoignage? Puis c'est cette pause-là qui a permis de se recentrer. Puis la petite de 4 ans, solide, est retournée puis elle a complété son témoignage après sa pause, après avoir flatté le chien.
Wow! Elle sentait là, qu'elle avait besoin de cette aide-là. Elle a su reconnaître l'aide que le chien pouvait y apporter.
À 4 ans. C'est incroyable. Fait que c'est fou l'impact qu'on le voit avec les adultes, même les membres de la famille, quand ils arrivent là, ils vivent ce stress-là. Les palais de justice, c'est extrêmement stressant. Fait que la présence du chien est très rassurante, très, très rassurante.
Et est-ce que je comprends, donc, les chiens ont des missions. Est-ce que ça les enfants ou les adultes qui bénéficient de leurs services ponctuels, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à s'attacher à l'animal?
Ben oui, c'est certain qu'ils sont là ponctuellement, comme la petite de 4 ans, là, on l'a fait son enquête préliminaire, bientôt on va être avec elle pour son procès. C'est sûr qu'on peut pas mettre le même chien sur 5 jours parce que ça va être trop pour lui, mais ils apprennent à s'attacher aux différents chiens. Puis ils apprennent les différences de nos chiens, ils ont tous des caractères différents, puis ils apprécient, fait qu'on leur donne toujours une carte avec une photo du chien pour qu'ils gardent un souvenir du chien par la suite. Puis s'ils ont besoin d'autres rendez-vous, parce que c'est pas juste les procédures, s'ils vont chez le psychologue après, s'ils ont d'autres rendez-vous, ils peuvent toujours nous appeler, puis on va aller les voir, puis les accompagner avec le chien.
Comment vous gérez avec les intervenants le deuil que ça peut représenter d'avoir eu cet ami canin qui nous accompagne, mais qui va partir après? Tu sais, le fait que ça soit vraiment...
Oui, c'est intéressant ce que vous apportez comme point parce qu'on ne vit pas tant ça un deuil. C'est plus un « wow, il va aider d'autres personnes. Je suis contente qu'il continue. » Puis il ne disparaît pas, le chien. Il est là, puis ils savent qu'ils peuvent nous rappeler aux besoins.
Comme un donné au suivant. C'est ça, ça m'a été utile à moi, je suis contente que ça puisse aider d'autres.
Oui, même les enfants comprennent tout ça. Puis ils ont leur petite carte avec leur photo de leur chien Yogi, Simba, Maki, Dumbo. Fait qu'on a des photos pour chacun des chiens. Fait qu'on leur donne. Puis ils savent qu'ils peuvent nous recontacter. Ouais. Il y en a qu'on suit depuis plusieurs années.
Ah, j'ai eu un chat, Maki. Dites-moi, vous nous nommez le nom des chiens. Est-ce qu'ils ont développé des spécialités? Bien, vous dites qu'ils ont leur caractère, mais est-ce qu'il y a certains de ces animaux-là qui sont plus à l'aise, vous constatez qu'ils ont des particularités, plus de facilité dans tel contexte ou tel autre, ou avec soit de l'anxiété ou plus les troubles anxieux?
Oui, clairement, parce qu'ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur force, leur faiblesse, puis c'est une des particularités de notre fondation, c'est qu'on fait du mix and match. Dumbo, là, notre Golden, là, il est extraordinaire avec les enfants. Lui, il vit dans un milieu qui sont 5 enfants chez eux, fait qu'il est habitué, les ados, il n'y a pas de problème. Maki, c'est notre grosse terneuse. Elle, il ne faut pas la mettre dans un endroit trop petit parce qu'elle a faux. Mais elle, on arrive en cours, là, elle pèse 120 livres. Là. Elle va te sécuriser la victime parce que là, juste là, passer dans le cadre de porte, là, souvent les agresseurs font exprès pour passer en même temps que la victime pour la rendre mal à l'aise. Nous, on met notre terre-neuve de 120 livres entre les deux. Là. Puis là, ils se sentent plus en sécurité. Fait qu'elle est bonne là-dedans. Elle reste ultra calme. Elle détecte super bien. Yogi, lui, c'est notre grosse patate. Lui, il marche plus. Il a deux vitesses, là. Il marche lent et très lent. Fait que lui, il est super bon pour calmer tout le monde. On fait juste marcher dans un corridor, là.
On le sent.
Tu peux pas être stressé avec Yugi. Tu peux pas marcher vite. Mm. Il va être. Non, on relaxe. C'est notre. Lui, on le met. Je l'amène dans un truc médiatique, là. Oui. Les caméras, ça l'impressionne pas. Il y a rien qui le stresse. C'est notre plus zen de toute la gang, mais c'est justement avec les jeunes, des fois, il est quasiment trop zen. Fait que ça dépend des contextes, en fait. Fait que oui, on fait vraiment du mix and match selon leur personnalité.
Puis est-ce que c'est des types de chiens? On a parlé d'un Golden, Terre-Neuve. Est-ce qu'il y a des types de chiens qui sont plus... bon, on le sait, le Golden est très sociable, mais qui se prêtent plus à être des chiens d'assistance?
Mais en fait, je dois dire qu'un peu, oui. Il y a certaines races qui sont moins enclins à devenir chiens d'assistance, mm-hmm. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un de cette race. Par exemple, je vais donner l'exemple des Border Collies. C'est des chiens très tournés vers leur maître puis vers leur humain, mm-hmm. mais ils ont de la misère, ces chiens-là, à transférer vers d'autres humains. Parce que nous, c'est un intervenant qui n'est pas un membre de la famille qui le prenne. Fait que pour notre job à nous, ce n'est pas toujours les meilleurs parce qu'ils deviennent très dépendants, effectivement, de leur propre maître. Par contre, les Golden, les Labrador, c'est des races qui ont une bonne énergie, parce que ça prend quand même une bonne énergie, parce que faut pas que le chien se fatigue. Il y a des chiens qui sont plus paresseux, là, qui vont se fatiguer rapidement. Fait que ces chiens-là ont une bonne énergie, fait qu'ils sont capables de travailler le nombre d'heures qu'on va exiger d'eux, puis qu'on va demander d'eux, puis ils vont être encore avec d'énergie, puis le goût de voir les autres, qui sont très tournés vers l'humain. Mm. Fait que oui, il y a des particularités avec les races, mais c'est pas couler dans le béton qu'une race ne peut pas, puis qu'on ne peut pas avoir des comportements exceptionnels dans des races comme un husky, comme un border collie, mais c'est juste moins typique.
Oui, on ne verrait pas ça chez un dalmatien, par exemple.
Bien, ils sont très hyperactifs, les dalmatiens. Fait que, tu sais, ça dépend, mais il peut avoir un dalmatien exceptionnel qui pourrait cadrer. Fait que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de race qui ne fit pas, mais je veux pas dire, mais je peux avouer qu'il y a des races qui sont plus propices.
Oui. Et comment ils sont formés, justement, entraînés, les animaux? Est-ce que c'est des entraîneurs particuliers?
Oui. Ouais. Bien, nous, on a toute une équipe d'entraîneurs là, qui travaille avec nous, avec différents consultants. Dans le fond, il y a toujours la différence entre un chien d'assistance et un chien de zoothérapie. Le chien de zoothérapie, lui, va faire un entraînement plus de base, obéissance de base, être capable de faire les commandes, marcher au pied, assis, coucher, reste, puis il va avoir une attitude intéressante, il va s'intéresser à l'humain, ces choses-là. Tandis que le chien d'assistance, il faut le prendre et leur montrer des commandes spécifiques. Mmh. Puis nous, c'est entre autres apprendre à détecter l'anxiété. Mmh. Donc, on l'utilise par des tics, zigner de la patte, se gratter excessivement. Puis à chaque fois que le chien voit ça, il va porter son museau sur la cuisse pour faire un point de pression. On appelle ça le touch. Puis ça, c'est un entraînement spécifique. Puis on a plusieurs entraîneurs qui travaillent avec nous, là, puis qui vont aller entraîner plus spécifiquement ce comportement-là qui est en lien avec la détection. Parce qu'un chien d'assistance va faire des comportements spécifiques pour pallier au handicap.
Et est-ce que ces manifestations-là d'anxiété sont différentes, par exemple, chez quelqu'un qui a un trouble anxieux ou quelqu'un qui a un trouble dans le spectre de l'autisme?
Non, en fait, pour l'animal, là, lui, il ne détectera pas la différence entre quelqu'un qui a un TSA ou un trouble anxieux. Il y a une étude qui a été faite justement par Simon Gadebois, qui est un éthologue qui étudie le comportement humain et animal. Mm-hmm. Puis, il a détecté que c'est dans la salive que les chiens sentent l'anxiété. Il a fait un test durant la COVID. Il a pris des gens, il les a mis dans une situation zen avec le masque. Puis ils ont mis dans une situation stressante avec le masque. Mm-hmm. Puis les chiens étaient capables de deviner quel masque était le masque stressé puis quel masque était le masque calme. Fait que pour le chien, lui, il va... Puis nous, on les a entraînés avec le conditionnement classique des mouvements, tu sais, zigner de la patte, gratter, mais ce qu'on réalise, c'est que le chien, il sait bien avant qu'on fasse ces comportements-là. Par l'odeur. Puis nos chiens, plus ils ont de l'expérience, plus ils détectent rapidement.
Ouais. Et dites-moi, vous parliez tout à l'heure d'une subvention que vous avez reçue par le ministère de la Justice. Je comprends qu'avec ça, il y a des gens qui étaient bénévoles, des intervenants qui étaient bénévoles que vous avez pu embaucher.
Exact. Ça nous a permis pour cette période-là d'embaucher trois personnes. Deux à temps partiel, une à temps plein. Mm-hmm. Mais malheureusement, le ministère de la Justice n'a pas renouvelé notre subvention. Donc, nous, on a été obligés de congédier deux personnes, puis maintenant, on a seulement une personne à temps plein, mais on a quand même deux bénévoles qui travaillent quand même. Ils ont continué. Puis même notre intervenante, on a été une période qu'on n'avait plus d'argent, elle a continué bénévolement pour nous.
Est-ce que
quel point la cause Oui. Est importante pour elle.
Est-ce que les gens peuvent offrir des dons pour vous permettre de poursuivre votre travail?
Oui, c'est clair. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin des dons. C'est par les dons qu'on fonctionne. On organise aussi une soirée bénéfice au mois d'octobre. Les gens peuvent aller nous voir sur notre site web, fondationlesqui.com, L-E-S-K-I.com. On peut faire des dons en ligne, mais on peut aussi participer à notre soirée bénéfice qui va avoir lieu au mois d'octobre. Mm-hmm. On a Jean-François Mercier comme porte-parole qui va être présent. Donc, on en a fait une cette année. C'est grâce au support, aux commandites qu'on réussit à survivre actuellement. Puis, on a réussi à amasser 70 000 dans notre dernière soirée bénéfice, ce qui nous permet de réengager notre intervenante pour l'année. Ah. Là, on aimerait ça ramasser encore plus. Puis, on espère que le gouvernement, on fait des demandes de subvention. Mm-hmm. On espère que ça va aller positivement. Mais on est conscient du contexte actuel. Puis pour nous, c'est important de poursuivre notre mission, mais c'est toujours un défi le financement. Puis ça fonctionne parce qu'on a une équipe avec des gens de cœur qui poursuivent, ouais, là, malgré le fait qu'on n'a pas toujours un financement assuré.
Petite question comme ça, Jean-François Mercier, pourquoi il s'est associé à la cause en terminant?
Ah, Jean-François Mercier, c'est un passionné des animaux. Mm-hmm. Vraiment passionné. Il a toujours eu des chiens, puis il est aussi passionné de l'humain. Il est vraiment quelqu'un que la cause l'a touché parce qu'il cherchait une cause qui rallie autant l'humain que l'animal. Puis, il est très dévoué à notre événement. Il est venu à notre événement, puis il vient dans... On a un tournoi de balle au mois de juillet à Saint-Damas qu'on organise. Puis, il est venu jouer à balle. Il se soucie, il vient voir ce qu'on fait. Parce que je pense que l'aide qu'on apporte, ça le touche énormément. Puis, les animaux, ils les adorent.
Merci. Okay, j'avais su que votre précédente porte-parole, c'était Lara Fabian, puis c'est le fruit d'un hasard que vous étiez rencontrée.
Oui, ça, c'est très drôle. Écoute, on l'avait rencontrée au Hot Dog Café.
Oui.
Puis c'est elle qui s'était offerte pour être notre porte-parole, ce qui est quand même très intéressant. On a été chanceux de l'avoir, mais là, la vie a fait qu'elle est retournée faire ses tournées après la COVID. Donc, elle est retournée en Europe. Ça fait que ça devenait très compliqué pour elle de s'impliquer auprès de notre fondation au niveau du temps, là, on va comprendre. Mais elle nous a aidés énormément là, pour la visibilité. Puis elle aussi, puis son mari était particulièrement amoureux des chiens. Ouais. Là.
Moi, je pense que Gabriel, c'est ça, avait témoigné là, que sans animal, il serait incomplet. Donc, c'était un beau cri du cœur de l'importance de votre OSBL. Puis ce que j'entends aussi, Marie-Hélène, c'est que ça a été le fruit d'un hasard et votre rencontre avec Marie-Ève a été un peu le fruit du hasard, mais c'est de profiter justement parfois de ces moments de vide-là pour rêver puis de dire à voix haute notre rêve à d'autres personnes.
Exact. Je pense que c'est important quand on a des rêves de pas les oublier puis d'en parler. Puis on sait jamais la vie quand ça va faire en sorte que ça va fonctionner. Moi, écoutez, c'était en 2003 que j'ai rêvé à ça, puis c'est en 2018 que ça s'est mis en place. Donc, tu sais, on ne sait jamais dans la vie, il ne faut juste pas perdre nos rêves.
Absolument. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir été avec nous. Marie-Hélène Paquin, présidente, cofondatrice de la Fondation Lesqui. Merci.
Merci.